Édition spéciale donc des matins de France Culture consacrée à la série d'attentats hier à Londres. Le prochain journal vous sera présenté à 8h par Hervé Gardette. Et d'ici là, entretien avec notre invité de ce matin, Percy Kemp. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et bienvenue. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes consultant en relations internationales. Vous vivez entre Paris, Londres et les grandes capitales du Moyen-Orient. Vous vous occupez très précisément d'évaluer les risques, terrorisme ou autre, pour le compte d'investisseurs privés qui souhaiteraient s'installer dans des pays a priori dangereux. Études à Oxford, à la Sorbonne, à Paris, collaborateur régulier de la revue Esprit, également romancier. Vos romans d'espionnage rencontrent un très grand succès auprès du public. J'en indiquerai les titres tout à l'heure. Il rebrasse aussi cette réalité géopolitique du monde contemporain, cet élément de violence. Une première réaction à cette série d'attentats à Londres.
Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir permis de participer à cette émission parce que elle m'a d'ores et déjà permis de confirmer qu'une heure aussi matinale que 7h du matin existait. J'en avais entendu parler, mais je savais pas qu'elle existait. Il est vrai que les attentats de Londres nous touchent, mais je sais pas s'ils nous touchent pour les bonnes raisons. J'ai entendu hier le Premier ministre britannique parler, il disait « les terroristes ne gagneront pas ». Et je me demande, moi, s'ils n'ont pas déjà gagné. En ce sens que toutes les valeurs pour lesquelles nous disons que nous combattons sont aujourd'hui battues en brèche par nos propres gouvernements. En ce sens, je pense que le terrorisme a déjà gagné. Nos libertés civiques et nos libertés individuelles sont de plus en plus limitées au nom de la guerre contre le terrorisme et nous semblons pris en tenaille entre deux équipes de fous furieux, des gouvernants d'un côté et des terroristes de l'autre. La société civile est prise en otage et je pense que c'est vraiment un nouvel Occident qui se profile aujourd'hui, d'ores et déjà.
Ça, c'est la grande remarque, la grande analyse que faisait notamment, je pense, un Jacques Derrida récemment, dire que le terrorisme pose une question redoutable à la démocratie. La démocratie, c'est deux choses. C'est deux choses au minimum, protéger à la fois les citoyens, assurer le niveau de sécurité optimal. Donc ça, c'est une injonction démocratique. C'est aussi protéger la liberté. On est dans cette contradiction-là et d'après vous, elle est jouée donc.
Je pense qu'elle est jouée dans le mauvais sens, effectivement. C'est-à-dire que dans le terrorisme, il y a trois parties en présence. Il y a les terroristes, il y a leur cible principale qui sont les États ou les gouvernements, et il y a la société civile qui est une cible secondaire. Les terroristes s'attaquent à la cible secondaire pour faire pression sur la cible principale. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parce que nous mettons la sécurité avant la liberté, il y a une fusion de plus en plus complète entre société civile et appareil d'État. Ce qui fait que la société civile est complètement laminée par l'appareil d'État. Je pense que un autre choix aurait pu être fait. En ce sens que les gouvernants auraient pu envisager de négocier avec les terroristes. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu aussi envisager de banaliser le terrorisme, comme on banalise d'autres risques que nous encourons de par le simple fait d'être en vie et de vouloir fonctionner librement. Je pense aux accidents de la route, à la maladie...
Pas la même chose, quand même. Un geste politique, Percy Kemp, un accident de la route.
Ça peut être interprété comme un geste politique aussi. Bon, le sida est politique aujourd'hui, tout est politisé. Mais je dis que du simple fait de vivre dans une société libre, nous acceptons un certain élément de risque. Or, les gouvernants auraient pu envisager de banaliser le terrorisme, c'est-à-dire d'en faire un risque comptable comme beaucoup d'autres risques. Ils ne l'ont pas fait. Et ils auraient pu, comme je le disais, envisager de négocier avec les terroristes. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Est-ce pour des raisons morales ? Je ne le pense pas. Je pense parce que ni l'une ni l'autre de ces deux options ne leur permettait de renforcer leur pouvoir. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une situation où les deux seuls gagnants sont les terroristes d'un côté et les appareils d'État de l'autre, puisque tous les deux sont en train de renforcer leur emprise sur les sociétés civiles. On le voit très clairement en Irak, où les terroristes font fi de la vie humaine, ils s'attaquent à des innocents, et ils renforcent leur emprise sur la société. De la même manière, de l'autre côté, les appareils d'État font exactement la même chose. Je pense que si c'est cette option de l'intransigeance qui a été, si c'est cette option qui a été choisie, c'est parce que c'est la seule qui génère du pouvoir pour les équipes qui sont en place.
Théorie du complot. Percy Kemp, si je vous comprends bien.
Non, pas du tout théorie du complot.
On peut pas mettre quand même sur le même plan une violence terroriste et l'exercice d'une violence légitime. Le monopole de la violence légitime est au cœur du pouvoir d'État. C'est quand même pas la même chose.
Je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis que le résultat est le même. Je ne fais pas un parallèle entre, disons, Zarqawi ou Osama Bin Laden d'un côté et Tony Blair de l'autre.
Il faut quand même le préciser, ça, parce qu'on pourrait l'entendre, dans vos propos.
Ce que je suis en train de dire, c'est que, en fin de compte, chacune des deux parties fait ce qui est le mieux pour renforcer son propre pouvoir. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez tout de même de cette forme de violence? Vous disiez tout à l'heure qu'elle avait gagné. Vous disiez également qu'elle tend un piège redoutable à la démocratie. Vous pensez qu'elle est une constante aujourd'hui, ou appelée en tout cas à le devenir, une constante de la vie internationale et de la vie des démocraties aussi?
Je pense, parce que nous sommes confrontés à une nouvelle expansion de l'Occident, une nouvelle expansion mondiale, qui n'est pas sans rappeler l'expansion qu'on a vue à partir du XVIIe siècle et qui a culminé à la fin du XIXe avec l'impérialisme. À la différence près que l'expansion précédente était d'une certaine manière légitimée, c'est-à-dire que les populations dominées acceptaient de donner à l'étranger dominant une certaine légitimité de pouvoir. Or, aujourd'hui, on ne retrouve plus cette légitimité. Et dans la mesure où c'est un pouvoir nu qui s'attaque ou qui s'approche de l'autre, et que ce pouvoir n'est pas perçu comme étant légitime, on ne peut que postuler que la violence va continuer.
C'est une donnée d'un monde chaotique que vous expliquez comment? Comment on peut réduire la chose? Puisque vous disiez que la réponse qui consiste à réduire les libertés civiles n'est pas, d'après vous, la bonne réponse. Quelle serait la bonne manière de penser ce problème-là, de manière politique, donc, j'imagine?
Ce que je dirais, c'est que il faut savoir ce pourquoi nous sommes prêts à accepter des sacrifices et des limitations à nos libertés individuelles et à notre mode de vie. Ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on accepte ces limitations à nos libertés civiques et individuelles pour des causes qui ne sont pas vitales pour la survie de nos sociétés. Et or, ce qui se passe maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes
de préserver la sécurité, tout de même, Percy Kemp.
Oui, mais on obère le fait de savoir pourquoi on en est arrivé là.
Pourquoi, d'après vous?
Il faut se demander, à mon avis, pour ce que nous faisons en Irak, il faut se demander ce que nous sommes allés faire en Afghanistan, il faut se demander ce que nous faisons avec la globalisation, il faut se demander ce qu'on fait pour l'autre moitié de l'humanité. Je pense que il est des choses pour lesquelles il faut se battre, mais il est aussi des choses pour lesquelles il faut refuser de se battre.
On va poursuivre notre enquête et notre exploration dans quelques instants avec vous, Percy Kemp. Chronique téléphonique ce matin d'Alain Gérard Slama. Trois fautes à ne pas commettre, Alain Gérard.
Oui, on va essayer de raison garder, Nicolas.
Avec plaisir.
On va essayer. En réponse à l'attentat de Londres, je pense en effet que trois fautes, selon moi, doivent être évitées. J'en aurais volontiers ajouté une quatrième qui consiste à ne pas renvoyer les terroristes et les terrorisés dos à dos. Hein. Bon, mais ça, passons. La première faute consisterait à sous-estimer le fait que de Manhattan à Londres, en passant par Bali, Casablanca, Istanbul, Madrid, nous avons affaire à une organisation déterminée, fortement structurée et rationnelle. Cette organisation, de quelque nom qu'on l'appelle, a une stratégie. Cette stratégie, c'est l'escalade de la terreur. Une escalade de type clausewitzien, aussi contrôlée que possible. Son but est de déstabiliser les démocraties et leurs alliés du monde arabo-musulman. Elle vise à les démoraliser, à peser sur leur politique intérieure et extérieure, comme on l'a vu à Madrid, et à ruiner leur économie. Elle ne cherche pas, du moins pour l'instant, à les détruire, ni sans doute à les dominer physiquement, mais à en conquérir la maîtrise. Son arme est la fabrication en série de bombes humaines fanatisées, sur lesquelles aucune dissuasion n'a de prise, et avec lesquelles, évidemment, il est absurde d'imaginer qu'on puisse discuter. Cette propagande se nourrit de la misère et d'un ressentiment puisé dans une très longue histoire qui va très au-delà des conflits du Moyen-Orient. Mais l'appartenance aux classes moyennes de nombre de kamikazes démontre qu'elle est d'abord idéologique. Cette idéologie a l'islam pour prétexte. Elle prend en réalité le relais du marxisme-léninisme. Elle repose, comme lui, sur une contestation radicale des démocraties libérales, considérées comme le pourrissoir de la planète et la honte de l'humanité. Comme le marxisme-léninisme, elle légitime le terrorisme en dénonçant dans la démocratie un instrument de domination des riches sur les pauvres. Et comme lui, elle utilise la dialectique provocation-répression. Entrer dans cette dialectique est la deuxième faute à ne pas commettre. Plus la démocratie se durcit dans une répression disproportionnée, plus elle amoindrit sa légitimité et plus elle sert la propagande dirigée contre elle. La riposte doit être ajustée. Elle peut prendre la forme de pression sur les régimes qui accueillent les terroristes, comme les États-Unis l'ont fait en Afghanistan, et là ça me paraît acceptable, mais en attaquant l'Irak, en effet, et en violant le droit à Guantanamo, le président américain est entré dans le piège qui lui était tendu. Et cette faute, eh ben, nous lui devons notamment l'élection d'un islamiste à Téhéran. Quant à la troisième faute, elle consiste à céder aux pressions intérieures de ceux qui, sous prétexte d'adapter les démocraties au changement des mentalités, de la démographie, des mœurs, servent de relais aux propagandes ethniques, religieuses et identitaires. Avant-hier, en apprenant la victoire de Londres dans la course aux Jeux Olympiques de 2012, Tony Blair s'était flatté de devoir ce succès à l'orientation multiculturelle qu'il a donnée à la société britannique. Eh bien, hélas, 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 la fidélité à l'universalisme laïque et au principe d'un État rationnel, déterminé à maintenir la neutralité de l'espace public, constitue aujourd'hui plus que jamais le rempart le plus sûr contre le fanatisme.
Notre invité ce matin, Percy Kemp, on est évidemment au lendemain de cette série d'attentats de Londres. Un mot de réaction peut-être à ce que disait Alain Gérard Slama sur la dimension sociologique qui pourrait, dans un certain sens, expliquer aussi le passage au terrorisme, traiter la misère dans les pays où se recrutent les futurs terroristes. Quelle est votre analyse sur ce plan-là?
Je ne pense pas qu'il y ait relation de cause à effet entre misère et terrorisme. Il suggérait d'ailleurs à l'instant que les kamikazes appartiennent souvent aux classes moyennes, effectivement, donc on se trouve dans une situation plutôt d'élite, d'avant-garde du parti, disons dans le sens anarchiste ou léniniste, que dans un cas de figure de Jacquerie ou de Gueux. Non, je pense pas que ce soit là le...
Et alors, comment expliquer justement la dimension des classes moyennes dans cette question-là? Qu'est-ce qui est allé de travers comme...
Ce qui est allé de travers, c'est le refus des classes moyennes des pays musulmans, d'abord de leurs propres élites. Et, par extension, le refus par ces classes moyennes des élites occidentales qui appuient les élites locales. Je pense que ça a joué un rôle considérable. D'ailleurs, le cursus de Ben Laden le montre. Il ne faut pas oublier que Ben Laden, qui est un citoyen saoudien a été longtemps instrumentalisé par les services saoudiens et les services américains contre les soviétiques. Ensuite, quand on n'a plus eu besoin de lui, on lui a dit « merci, au revoir ». Et apparemment, il n'a pas beaucoup apprécié ça. Son but principal est la prise de pouvoir en Arabie Saoudite même et dans la péninsule arabique. Et les États-Unis ne sont une cible que dans la mesure où ils appuient et ils permettent le maintien des régimes que lui veut abattre. Je pense que le problème est intermusulman avant d'être entre l'islam et l'Occident.
Comment, d'après vous, aider à le faire avancer, ce problème?
Je ne sais pas si j'ai une réponse à ça, mais je pense que...
Des éléments moins de réflexion.
Je pense que moins d'arrogance de notre part, moins de volonté de puissance... Moins de volonté de vouloir à tout prix exporter nos modèles politiques ou sociologiques pourrait contribuer.
L'exportation de la démocratie, vous n'y croyez donc pas, Percy Kemp?
Enfin, je ne sais pas, une question de j'y crois ou pas. Je pense que l'exportation de la démocratie est un outil. C'est-à-dire qu'elle a, dans beaucoup de cas, remplacer l'exportation, disons, de la révolution au temps du Comintern, en ce sens que il y a beaucoup de sociétés qui ne peuvent pas générer de pouvoir dans un cadre démocratique. Et je pense par exemple à la Russie. Il y a beaucoup de sociétés pour qui la démocratie est synonyme d'atomisation. Et j'estime qu'en voulant démocratiser à tout prix des pays où la structure de pouvoir doit, pour fonctionner, être centralisée, on atomise ces sociétés. Donc on les affaiblit, on en fait des vassaux, mais on se retrouve aussi dans une situation où on, comme en Irak, où l'atomisation crée de plus en plus de violence.
Comment analysez-vous, Percy Kemp, la dimension religieuse de ces questions?
Religieuse, vous voulez dire, est-ce que...
On parle d'un terrorisme à base religieuse. Ou à prétexte religieux, comme disait Alain Gérard Slama.
Oui. Je pense que la dimension religieuse est importante en ce sens que pour la première fois depuis la Renaissance en Occident, l'homme n'est plus central. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une configuration où l'individu n'est plus ce qui est le plus important. Puisqu'il y a quelque chose de qui lui est supérieur, qui est Dieu. C'est clair, par exemple, dans l'attitude que les Américains ont adoptée récemment vis-à-vis de leur propre perte. C'est-à-dire que on est passé du principe du zero dead qui émanait du syndrome de la guerre du Vietnam à une situation où il y a une banalisation quasi totale des pertes humaines américaines sur le sol irakien. Je pense que, en ce sens, le phénomène religieux est important parce que il a déplacé l'homme. Il en a fait l'outil de quelque chose qui le dépasse, alors que, en Occident, depuis la Renaissance, on vivait dans une situation où l'homme était au centre de tout. Donc on n'est plus dans l'anthropomorphisme, je pense.
À tout de suite, Percy Kemp. On retrouve dans quelques instants le programme de cette édition spéciale. On retrouvera évidemment tout à l'heure les collaborateurs des Matins de France Culture, Alexandre Adler, Marc Kravets notamment. Et le programme pour l'instant, c'est à 8h, une édition spéciale du journal qui vous est présentée par Hervé Gardette.
Bonjour. Le métro de Londres fonctionne à nouveau ce matin. Pas dans sa totalité, bien sûr. Les lignes les plus touchées par les attentats d'hier sont encore fermées pour deux d'entre elles. Mais sur trois autres, le trafic reprend partiellement. Étant donné le très grand nombre de blessés, le bilan des morts sera sans doute revu à la hausse. Aux dernières nouvelles, celles communiquées par le Premier ministre australien, il était de 52 personnes tuées. Des dizaines de blessés sont disséminés dans les hôpitaux de la capitale anglaise. Même au pire moment du conflit nord-irlandais, la Grande-Bretagne n'avait jamais connu des attaques terroristes de cette ampleur, avec cette quasi-simultanéité. 4 bombes qui explosent en moins d'une heure, la dernière dans un bus à Impérial, les 3 premières dans le métro. Une série d'attentats revendiqués par l'organisation secrète de la djihad d'Al-Qaïda en Europe. Tout a commencé hier matin, donc à 8h51, dans un tunnel près de la station Liverpool Street, dans le quartier de la City. Vanessa Descoureaux.
Liverpool Street, la City de Londres, le cœur économique, plusieurs grands groupes, des banques ou des sociétés de consulting ont demandé à leurs employés de ne pas venir aujourd'hui. Certains réalisent à peine.
Je suis arrivé au boulot à 45, j'ai appris à 49 qu'il y avait eu